Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici donc à nouveau ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Honoré de Balzac, Ferragus, chef des dévorants. Auguste de Maulincourt était une victime des idées qui pesaient alors sur la jeunesse. Au milieu des secrets désastres de son cœur, pendant qu'il cherchait une femme par laquelle il pût être compris, recherche qui, pour le dire en passant, est la plus grande folie amoureuse de notre époque, Auguste rencontra dans le monde le plus éloigné du sien, dans la seconde sphère du monde d'argent, où la haute banque tient le premier rang, une créature parfaite, une de ces femmes qui ont je ne sais quoi de saint et de sacré, qui inspirent tant de respect que l'amour a besoin de tous les secours d'une longue familiarité pour se déclarer. Auguste se livra donc tout entier aux délices de la plus touchante et de la plus profonde des passions, à un amour purement admiratif. Ce fut d'innombrables désirs réprimés, nuances de passions si vagues et si profondes, si fugitives et si frappantes, qu'on ne sait à quoi les comparer. Elles ressemblent à des parfums, à des nuages, à des rayons de soleil, à des ombres, à tout ce qui, dans la nature, peut en un moment briller et disparaître, se raviver et mourir, en laissant au cœur de longues émotions. Dans le moment où l'âme est encore assez jeune pour concevoir la mélancolie, les lointaines espérances, et s'est trouvée dans la femme plus qu'une femme, n'est-ce pas le plus grand bonheur qui puisse échoir à un homme que d'aimer assez pour ressentir plus de joie à toucher un gant blanc, à effleurer des cheveux, à écouter une phrase, à jeter un regard, que la possession la plus fougueuse n'en donne à l'amour heureux. Aussi, les gens rebutés, les laides, les malheureux, les amants inconnus, les femmes ou les hommes timides connaissent-ils seuls les trésors que renferme la voix de la personne aimée? L'amour est dans la voix, avant d'être avoué par le regard. Auguste, poète à la manière des amants, il y a des poètes qui sentent et les poètes qui expriment, les premiers sont les plus heureux. Auguste avait savouré toutes ces joies premières, si larges, si fécondes. Elle possédait le plus flatteur organe que la femme la plus artificieuse ait jamais souhaité pour pouvoir tromper à son aise. Elle avait cette voix d'argent, qui douce à l'oreille n'est éclatante que pour le cœur qu'elle trouble et remue, qu'elle caresse en le bouleversant. Et cette femme allait le soir rue Soly, près de la rue Pagevin, et sa furtive apparition dans une infâme maison venait de briser la plus magnifique des passions. « Si elle trahit son mari, nous nous vengerons, » dit Auguste. Il y avait encore de l'amour dans le « si ». Le doute philosophique de Descartes est la politesse par laquelle il faut toujours honorer la vertu. 10 heures sonnèrent. En ce moment, le baron de Maulincourt se rappela que cette femme devait aller au bal dans une maison où il avait accès. Sur le champ, il s'habilla, partit, arriva, là, chercha, d'un air sournois dans les salons. Madame de Nucingen, le voyant si affairé, lui dit « Vous ne voyez pas Madame Jules, mais elle n'est pas encore venue. »«
Bonjour, ma chère, » dit une voix.
Auguste et Madame de Nucingen se retournèrent. Madame Jules arrivait, vêtue de blanc, simple et noble, coiffée précisément avec les marabouts que le jeune baron lui avait vu choisir dans le magasin de fleurs.
Cette voix d'amour perça le cœur d'Auguste.
S'il avait su conquérir le moindre droit qui lui permit d'être jaloux de cette femme, il aurait pu la pétrifier en lui disant « Rue Soli !» Mais quand lui, étranger, eut mille fois répété ce mot à l'oreille de Madame Jules, elle lui aurait, avec étonnement, demandé ce qu'il voulait dire. Il la regarda d'un air stupide. Pour les gens méchants et qui rient de tout, c'est peut-être un grand amusement que de connaître le secret d'une femme, de savoir que sa chasteté ment, que sa figure calme cache une pensée profonde, qu'il y a quelque épouvantable drame sous son front pur. Mais il y a certaines âmes qu'un tel spectacle contriste réellement. Et beaucoup de ceux qui en rient rentrés chez eux, seuls avec leur conscience, maudissent le monde et méprisent une telle femme. Tel se trouvait Auguste de Maulincourt en présence de Madame Jules.
Situation bizarre.
Il n'existait pas entre eux d'autres rapports que ceux qui s'établissent dans le monde entre gens qui échangent quelques mots 7 ou 8 fois par hiver, et il lui demandait compte d'un bonheur ignoré d'elle. Il la jugeait sans lui faire connaître l'accusation.
Beaucoup de jeunes gens se sont trouvés ainsi, rentrant chez eux, désespérés d'avoir rompu pour toujours avec une femme adorée en secret, condamnée, méprisée en secret. Ces démonologues inconnus, dits au mur d'un réduit solitaire, des orages nés et calmés sans être sortis du fond des cœurs, d'admirables scènes du monde moral auxquelles il faudrait un peintre.
Madame Jules alla s'asseoir en quittant son mari qui fit le tour du salon. Quand elle fut assise, elle se trouva comme gênée, et tout en causant avec sa voisine, elle jetait furtivement un regard sur M. Jules Desmarets, son mari, l'agent de change du baron de Nucingen. Voici l'histoire de ce ménage. M. Desmarets était, 5 ans avant son mariage, placé chez un agent de change et n'avait alors pour toute fortune que les maigres appointements d'un commis. Un soir, il vit chez son patron une jeune personne de la plus rare beauté. Les malheureux privés d'affection et qui consument les belles heures de la jeunesse en de longs travaux ont seul le secret des rapides ravages que fait une passion dans leur cœur déserté, méconnu. Ils sont si certains de bien aimer. Toutes leurs forces se concentrent si promptement sur la femme de laquelle ils s'éprennent que, près d'elle, ils reçoivent de délicieuses sensations et n'en donnant souvent aucune. C'est le plus flatteur de tous les égoïsmes pour la femme qui sait deviner cette apparente immobilité de la passion et ces atteintes si profondes qu'il leur faut quelque temps pour reparaître à la surface humaine. Ces pauvres gens, anachorètes au sein de Paris, ont toutes les jouissances des anachorètes et peuvent parfois succomber à leurs tentations, mais plus souvent trompés, trahis, mésentendus, il leur est rarement permis de recueillir les doux fruits de cet amour qui pour eux est toujours comme une fleur tombée du ciel. Un sourire de sa femme, une seule inflexion de voix, suffirent à Jules Desmarets pour concevoir une passion sans bornes.
Heureusement, le feu concentré de cette passion secrète se révéla naïvement à celle qui l'inspirait. Ces deux êtres s'aimèrent alors religieusement. Pour tout exprimer en un mot, ils se prirent sans honte tous deux par la main au milieu du monde, comme deux enfants, frères et sœurs, qui veulent traverser une foule où chacun leur fait place en les admirant. La jeune personne était dans une de ces circonstances affreuses où l'égoïsme a placé certains enfants. Elle n'avait pas d'état civil. Et son nom de Clémence, son âge, furent constatés par un acte de notoriété publique. Quant à sa fortune, c'était peu de chose. Jules Desmarais fut l'homme le plus heureux en apprenant ses malheurs. Si Clémence eût appartenu à quelque famille opulente, il aurait désespéré de l'obtenir, mais elle était une pauvre enfant de l'amour, le fruit de quelque terrible passion adultérine. Ils s'épousèrent. Là commença pour Jules Desmarais une série d'événements heureux. Chacun envia son bonheur et ses jaloux l'accusèrent dès lors de n'avoir que du bonheur sans faire la part à ses vertus ni à son courage. Quelques jours après le mariage de sa fille, la mère de Clémence, qui dans le monde passait pour être la marraine, dit à Jules Desmarais d'acheter une charge d'agent de change en promettant de lui procurer tous les capitaux nécessaires. En ce moment, ces charges étaient encore à prix modéré. Le soir, dans le salon même de son agent de change, un riche capitaliste proposa, sur la recommandation de cette dame, à Jules Desmarais le plus avantageux marché qu'il fût possible de conclure. Lui donna autant de fonds qu'il lui en fallait pour exploiter son privilège et le lendemain, l'heureux commis avait acheté la charge de son patron. En 4 ans, Jules Desmarais était devenu l'un des plus riches particuliers de sa compagnie. Des clients considérables vinrent augmenter le nombre de ceux que lui avait légué son prédécesseur. Il inspirait une confiance sans bornes et il lui était impossible de méconnaître, dans la manière dont les affaires se présentaient à lui, quelque influence occulte due à sa belle-mère ou à une protection secrète qu'il attribuait à la Providence. Au bout de la 3e année, Clémence perdit sa marraine. En ce moment, M. Jules, que l'on nommait ainsi pour le distinguer de son frère aîné, qu'il avait établi notaire à Paris, possédait environ 200 000 livres de rente. Il n'existait pas dans Paris un second exemple du bonheur dont jouissait ce ménage. Depuis 5 ans, cet amour exceptionnel n'avait été troublé que par une calomnie dont M. Jules tira la plus éclatante vengeance.
Jour d'hiver, elle est venue. Le destin me la porte, frapper à ma porte, c'était la malvenue. Elle venait de loin, son cœur était à nu. Mes amours étaient mortes, elle a passé ma porte, tu es la bienvenue. Depuis longtemps déjà, j'étais seul sous mon toit, j'avais éteint mon feu. Tant pis pour l'avenir, j'avais des souvenirs, j'attendais d'être vieux. Je m'étais résigné, un jour je l'oublierai quand passera le temps. Peut-être d'avoir trop aimé, mon cœur avait 1000 ans. Un jour d'hiver, elle est venue. Le destin me la porte, frapper à ma porte, c'était la malvenue. Elle est venue de loin, son cœur était à nu. Mes amours étaient mortes, elle a passé ma porte, tu es la bienvenue. Le temps de mes 20 ans, comme un coup de printemps, soudain est revenu. Il a tendu la main, il revenait de loin pour réclamer son dû. Elle m'a regardé, puis elle m'a chanté un air déjà connu. Allô, j'ai ouvert ma porte, adieu les amours morts, bonjour la bienvenue. Un jour d'hiver, elle est venue. Le destin me la porte, frapper à ma porte, c'était la malvenue. elle venait de loin. Son cœur était à nu, mes amours étaient mortes, elle a passé ma porte, tu es la bienvenue. Moi qui n'avais plus rien qu'un immense chagrin, j'ai trouvé des trésors. Elle a tout refleuri, elle a porté la vie, elle a semé de l'or. J'ai retrouvé enfin la douceur des matins que je croyais perdus. Rien que de dire à demain, moi je n'y croyais plus. Un jour d'hiver, elle est venue. Le destin me la porte, frapper à ma porte, c'était la malvenue. Elle venait de loin, son cœur était à nu. Mes amours étaient mortes, elle a passé ma porte, tu es la bienvenue. Moi qui avais si froid, les serrés contre moi, puis je l'ai réchauffé. Mais un jour je l'ai vu, le regard est perdu, mais qu'as-tu à pleurer? Elle a tendu le dos, puis entre deux sanglots, elle m'a murmuré. Je repartirai un jour, je pleurerai notre amour, je ne peux l'oublier. Un jour l'été est revenu, le destin me la porte, frapper à ma porte, c'était le malvenu. Elle partait au loin, mon cœur était à nu. Mes amours étaient mortes, elle a passé ma porte, adieu la bienvenue. Elle a pris le chemin qui s'écartait du mien, puis elle m'a souri. J'emporte mon chagrin, je te laisse le tien, que veux-tu, c'est la vie. Je me suis regardé, je me suis répété, un air déjà connu. À jamais fermez vos portes, on est des amours mortes, elles sont les malvenues. À jamais fermez vos portes, on est des amours mortes, elles sont les malvenues.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Ferragus, chef des dévorants, de Honoré de Balzac. Un des anciens camarades de M. Jules attribuait à Mme Jules la fortune de son mari, qu'il expliquait par une haute protection chèrement achetée. Le calomniateur fut tué en duel. La passion profonde des deux époux l'un pour l'autre et qui résistait au mariage obtenait dans le monde le plus grand succès, quoiqu'elle contrariât plusieurs femmes. Le joli ménage était respecté, chacun le fêtait. L'on aimait sincèrement monsieur et madame Jules, peut-être parce qu'il n'y a rien de plus doux à voir que des gens heureux. Mais ils ne restaient jamais longtemps dans les salons et s'en sauvaient impatients de gagner leur nid à tire-d'aile comme deux colombes égarées. Ce nid était d'ailleurs un grand et bel hôtel de la rue des Ménards, où le sentiment des arts tempérait ce luxe que la gent financière continue à étaler traditionnellement et où les deux époux recevaient magnifiquement, quoique les obligations du monde leur convinssent peu. Néanmoins, Jules subissait le monde, sachant que tôt ou tard, une famille en a besoin. Mais sa femme et lui s'y trouvaient toujours comme des plantes de serre au milieu d'un orage. Par une délicatesse bien naturelle, Jules avait caché soigneusement à sa femme et la calomnie et la mort du calomniateur qui avait failli troubler leur félicité. Madame Jules était portée par sa nature artiste et délicate à aimer le luxe. Malgré la terrible leçon du duel, quelques femmes imprudentes se disaient à l'oreille que Madame Jules devait se trouver souvent gênée. Les 20 000 francs que lui accordait son mari pour sa toilette et pour ses fantaisies ne pouvaient pas, suivant leurs calculs, suffire à ses dépenses. En effet, on la trouvait souvent bien plus élégante chez elle qu'elle ne l'était pour aller dans le monde. Elle aimait à ne se parer que pour son mari, voulant lui prouver ainsi que pour elle, il était plus que le monde. Amour vrai, amour pur, heureux surtout, autant que le peut être un amour publiquement clandestin. Aussi M. Jules, toujours amant, plus amoureux chaque jour, heureux de tout,
près de sa femme, même de ses caprices? Était-il inquiet de ne pas lui en voir, comme si c'eût été le symptôme de quelque maladie? Auguste de Malincourt avait eu le malheur de se heurter contre cette passion et de s'éprendre de cette femme à en perdre la tête. Cependant, quoiqu'il portât en son cœur un amour si sublime, il n'était pas ridicule. Il se laissait aller à toutes les exigences des mœurs militaires. Mais il avait constamment, même en buvant un verre de vin de champagne, cet air rêveur, ce silencieux dédain de l'existence, cette figure nébuleuse qu'ont, à divers titres, les gens blasés, les gens peu satisfaits d'une vie creuse, et ceux qui se croient poitrinaires ou se gratifient d'une maladie au cœur. Aimer sans espoir, être dégoûté de la vie, constitue aujourd'hui des positions sociales. Or, la tentative de violer le cœur d'une souveraine donnerait peut-être plus d'espérance qu'un amour follement conçu pour une femme heureuse. Aussi, Malincourt avait-il des raisons suffisantes pour rester grave et morne. Une reine a encore la vanité de sa puissance. Elle a contre elle son élévation. Mais une bourgeoise religieuse est comme un hérisson, comme une huître dans leurs rudes enveloppes. En ce moment, le jeune officier se trouvait près de sa maîtresse anonyme, qui ne savait certes pas être doublement infidèle. Madame Jules était là, naïvement posée, comme la femme la moins artificieuse du monde, douce, pleine d'une sérénité majestueuse. Quel abîme est donc la nature humaine ? Avant d'entamer la conversation, le baron regardait alternativement et cette femme et son mari. Cependant, la musique retentissait dans les appartements. La lumière y était versée par mille bougies. C'était un bal de banquier, une de ces fêtes insolentes par lesquelles ce monde d'or mat essayait de narguer les salons d'or moulu où riait la bonne compagnie du faubourg Saint-Germain, sans prévoir qu'un jour la banque envahirait le Luxembourg et s'assiérait sur le trône. Les conspirations dansaient alors, aussi insouciantes des futures faillites du pouvoir que des futures faillites de la banque. Les salons dorés de M. le baron de Nucingen avaient cette animation particulière que le monde de Paris, joyeux en apparence du moins, donne aux fêtes de Paris. Là, les hommes de talent communiquent aux sots leur esprit, et les sots leur communiquent cet air heureux qui les caractérise. Par cet échange, tout s'anime. Mais une fête de Paris ressemble toujours un peu à un feu d'artifice. Esprit, coquetterie, plaisir, tout y brille et s'y éteint comme des fusées. Le lendemain, chacun a oublié son esprit, ses coquetteries et son plaisir. Et quoi ? Se dit Auguste en forme de conclusion. Certes, les femmes, toutes celles qui dansent ici sont moins irréprochables que ne le paraît Madame Jules, et Madame Jules va rue Soly. La rue Soly était sa maladie, le mot seul lui crispait le cœur. « Madame, vous ne dansez donc jamais ?» lui demanda-t-il. « Voici la troisième fois que vous me faites cette question depuis le commencement de l'hiver, » dit-elle en souriant. « Mais vous ne m'avez peut-être jamais répondu. »« Mais cela est vrai. » »« Je savais bien que vous étiez fausse comme le sont toutes les femmes. » Et Madame Jules continua de rire. « Écoutez, monsieur, si je vous disais la véritable raison, elle vous paraîtrait ridicule. » Je ne pense pas qu'il y ait fausseté à ne pas dire des secrets dont le monde a l'habitude de se moquer. Tout secret veut pour être dit une amitié de laquelle je ne suis sans doute pas digne, madame. Mais vous ne sauriez avoir que de nobles secrets. Et me croyez-vous donc capable de plaisanter sur des choses respectables ?
Oui, dit-elle, comme tous les autres, vous riez de nos sentiments les plus purs. Vous les calomniez. D'ailleurs, je n'ai pas de secret. J'ai le droit d'aimer mon mari à la face du monde, je le dis, j'en suis orgueilleuse. Et si vous vous moquez de moi en apprenant que je ne danse qu'avec lui, j'aurai la plus mauvaise opinion de votre cœur. Vous n'avez jamais dansé depuis votre mariage qu'avec votre mari.
Oui, monsieur.
Son bras est le seul sur lequel je me sois appuyée. Et je n'ai jamais senti le contact d'aucun homme.
Votre médecin ne vous a même jamais tâté le pouls.
Oh, eh bien, voilà que vous vous moquez.
Non, madame, je vous admire parce que je vous comprends. Mais vous laissez entendre votre voix, mais vous vous laissez voir, mais... Enfin, vous permettez à nos yeux d'admirer.
Ah, voilà mes chagrins, dit-elle en l'interrompant. Oui, j'aurais voulu qu'il fût possible à une femme mariée de vivre avec son mari comme une maîtresse vit avec son amant. Car alors...
Alors pourquoi étiez-vous, il y a 2 heures, à pied, déguisé, rue Soly ?
Qu'est-ce que c'est que la rue Soly ? Lui demanda-t-elle. Et sa voix si pure ne laissa deviner aucune émotion, et aucun trait ne vacilla dans son visage, et elle ne rougit pas, et elle resta calme.
Quoi ? Vous n'êtes pas monté au second étage d'une maison située rue des Vieux Augustins, au coin de la rue Soly ? Vous n'aviez pas un fiacre à 10 pas ? Et vous n'êtes pas revenu rue de Richelieu, chez la fleuriste, où vous avez choisi les marabouts qui partent maintenant en votre tête ?
Je ne suis pas sorti de chez moi ce soir. En mentant ainsi, elle était impassible et rieuse. Elle s'éventait.
Mais qui eut le droit de passer la main sous sa ceinture au milieu du dos l'aurait peut-être trouvée humide.
C'était alors une personne qui vous ressemble étrangement, ajouta Auguste d'un air crédule.
Monsieur, dit-elle, si vous êtes capable de suivre une femme et de surprendre ses secrets, vous me permettrez de vous dire que cela est mal, très mal, et je vous fais l'honneur de ne pas vous croire.
Le baron s'en alla, se plaça devant la cheminée et parut pensif.
Il baissa la tête. Mais son regard était attaché sournoisement sur Madame Jules, qui, ne pensant pas au jeu des glaces, jeta sur lui 2 ou 3 coups d'œil, empreints de terreur.
Madame Jules fit un signe à son mari, elle en prit le bras en se levant pour se promener dans les salons. Quand elle passa près de Monsieur de Malincourt, celui-ci, qui causait avec un de ses amis, dit à haute voix, comme s'il répondait à une interrogation,
C'est une femme qui ne dormira certes pas tranquillement cette nuit.
Madame Jules s'arrêta, lui lança un regard imposant, plein de mépris, et continua sa marche, sans savoir qu'un regard de plus, s'il était surpris par son mari, pouvait mettre en question et son bonheur et la vie de 2 hommes.
Auguste, en proie à la rage qui l'étouffa dans les profondeurs de son âme, sortit bientôt en jurant de pénétrer jusqu'au cœur de cette intrigue. Avant de partir, il chercha Madame Jules afin de la revoir encore, mais elle avait disparu.
Quel drame jeté dans cette jeune tête éminemment romanesque comme toutes celles qui n'ont point connu l'amour dans toute l'étendue qu'elle lui donne. Il adorait Madame Jules sous une nouvelle forme. Il l'aimait avec la rage de la jalousie, avec les délirantes angoisses de l'espoir.
Infidèle à son mari, cette femme devenait vulgaire. Auguste pouvait se livrer à toutes les félicités de l'amour heureux et son imagination lui ouvrit alors l'immense carrière des plaisirs de la possession. Enfin, s'il avait perdu l'ange, il retrouvait le plus délicieux des démons. Il se coucha, faisant 1000 châteaux en Espagne, justifiant Madame Jules par quelques romanesques bienfaits auxquels il ne croyait pas. Puis il résolut de se vouer entièrement, dès le lendemain, à la recherche des causes, des intérêts, du nœud que cachait ce mystère. C'était un roman à lire, ou mieux, un drame à jouer, et dans lequel il avait son rôle. Voilà pour ce soir donc, la suite de ce petit roman de Honoré de Balzac, Ferragus, le chef des dévorants. Nous nous retrouverons demain pour une autre lecture. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.